Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir partager cette parole de Dieu en ce jour où nous commémorons la fête de Pâques. Je vais vous inviter à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres d'Exode. Exode, le chapitre 12. Nous lisons le premier verset jusqu'au 11e. On devait lire jusqu'au 30e, mais nous allons nous arrêter au verset 11. Les livres d'Exode, le chapitre 12, le premier verset jusqu'au 11e. Nous allons aussi lire l'Évangile de Jean, chapitre 19, le 30e verset. Nous lirons un verset. Je commence la lecture en Exode, chapitre 12. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Je lis dans la version français courant. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci devra marquer pour vous les débuts de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis, on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'un an, sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée. Dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé, on rôtira cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec tête, pattes et abat. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on les brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Le vêtement serré à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Amen. Nous lisons aussi l'Évangile selon Jean, le chapitre 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30 dit ceci. Je vais lire le verset 28 aussi, 29 et 30. Après cela, comme Jésus savait que maintenant tout était achevé, il dit, pour accomplir le texte de l'Écriture, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans le vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit, « Tout est achevé. » Si vous lisez dans Louis Segault, ça va dire, « Tout est accompli. » Alors, il baissa la tête et mourut. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, En ce jour où nous commémorons la fête de Pâques, nous voudrons parler de tout est accompli. Tout est accompli. Quand nous parlons de tout, il n'y a pas d'exception. Après tout, il n'y a pas d'exception. Bon, souvent nous parlons français et nous disons tout sauf. Le sauf là efface directement le premier tout. Parce que le tout, quand on dit tout, on ne peut plus dire sauf. Il ne peut plus y avoir autre chose qui va aller au-delà de cette règle-là. Tout est accompli pour que nous puissions comprendre le méandre de cette prédication de ce jour, le jour de Pâques. Nous l'avons subdivisé à trois petites parties. La première partie, nous allons parler du contexte historique de la Pâque. Contexte historique de la Pâque. Nous allons parler de la Pâque dans l'histoire juive. Nous allons parler, en troisième lieu, de la Pâque et Jésus-Christ. Et après, nous allons faire une petite conclusion. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous parlons de ceci? Aujourd'hui, si on vous pose la question, on dit, comme vous êtes chrétien aujourd'hui là, pourquoi vous célébrez la Pâque? Vous allez dire, nous célébrons la Pâque parce que nous nous souvenons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Vous n'avez pas tort, c'est vrai. Mais la Pâque ne commence pas par l'événement Jésus, l'événement historique qui est Jésus. La Pâque commence plusieurs années avant la naissance de Jésus-Christ. Et ici même le dictionnaire met une différence. Quand on dit la Pâque, on écrit P-A-Q-U-E. Ça se réfère à la Pâque juive. Quand c'est pour le Christ, on écrit Pâque, on met S à la fin, et c'est au singulier, on dit le Pâque. Le Pâque. Donc, même par notre manière de dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas peut-être connaître ce que nous célébrons. La Pâque est célébrée par les Juifs, Pâque sans S, et le Pâque au masculin singulier, mais avec S. À la fin, le Pâque. C'est maintenant la célébration que nous, les chrétiens, nous faisons. Bon, si vous me demandez pourquoi on change ça, je ne saurais pas répondre à cette question. Mais quand j'ai lu le dictionnaire, c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté. Quel est le contexte historique de la Pâque? Alors, si je dis la Pâque, le Pâque, la Pâque, bon, comprenez que nous, on est déjà toujours habitués à dire la Pâque. Que ça soit chrétien ou pas, je vais dire la Pâque. Parce que j'ai dit le Pâque, ça risque de sonner mal aussi. Alors, le mot Pâque vient du mot hébreu, Pessa. Pessa. Vous voyez, à soi, nous disons Passac. Pessa. Ce mot-là signifie, là c'est un verbe, passer outre ou être de passage ou encore laisser aller. À d'autres termes, on peut encore dire laisser passer, le passac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu, il instaure un événement qui sera un passage miraculeux pour le peuple d'Israël. Ce peuple qui était en esclavage, ce peuple qui était opprimé, maintenant Dieu veut le faire passer de l'esclavage à la liberté. De l'esclavage à la liberté. Le passage de l'esclavage à la liberté. Les Juifs vont vous parler de Pessah, Pâques, passage, passer outre, laisser aller. Les gens qui étaient dans l'esclavage, les gens qui sont opprimés, ils deviennent maintenant libres. C'est pourquoi Pâques peut avoir la signification de laisser aller. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un est dans le laisser-aller, bon, il est possible que nous voyons que quelqu'un est dans la Pâque ici chaque jour. Parce qu'il vit dans le laisser-aller. Il vit, ce n'est plus la liberté, mais ça devient le libertinage. Quelqu'un qui est natif d'Israël, s'il dit « Oula na gwagatumu pasak », ça peut signifier que tu n'as pas de discipline à toi parce que tu es dans le laisser-aller. Mais ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans ce projet de Dieu qui décide de sauver son peuple de la servitude. Nous n'allons plus revenir comment le peuple d'Israël est arrivé en Égypte. Ça, c'est aussi un autre chapitre. Ici, nous parlons de leur sortie de l'Égypte. Si vous lisez la parole de Dieu, les enfants d'Israël ont fait plus de 400 ans en esclavage. Étant esclaves en Égypte, plus de 400 ans. Si vous lisez la Bible, ça va vous dire que c'est 430 ans. Mais le vrai esclavage, c'est 400. Peut-être les 30, c'est quand Joseph y est arrivé, il est devenu premier ministre et il est parti. Il est mort. Mais la Bible dit que quand le pharaon qui ne connaissait pas Joseph est arrivé, il a rendu ce peuple en esclavage. Alors, après ces 400 ans, Dieu décide, dans son plan du salut, sa manière d'être, Dieu travaille et il sait comment il va finir. Parce que lui, il a toujours une vision. Et ce qu'il fait, il peut le faire aujourd'hui, il peut même le faire après 1000 ans. L'histoire du salut, avant que Jésus n'arrive, Dieu avait déjà commencé cela, même dans le jardin d'Éden. C'est la signification même de lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, se sont retrouvés nus, parce que le péché amène la honte dans la vie de quelqu'un. Dieu, pour enlever cette honte, il a tué un agneau. La Bible dit, il a tué un agneau et il a couvert la peau de cet agneau à ses enfants, Adam et Ève, pour couvrir la honte. C'était déjà une préfiguration que le Christ, le vrai agneau qui vient de Dieu, mourra pour qu'un jour, ceux qui étaient pécheurs puissent recouvrir la liberté, pour qu'ils puissent, leur honte soit couverte. Alors Dieu choisit l'homme qui s'appelle Moïse, pour faire sortir le peuple de Dieu en Israël. Moïse, nous connaissons aussi comment il est né et comment il a grandi. Ça, c'est aussi un autre chapitre. Moïse a obéi à l'appel de Dieu. Il est allé affronter le Pharaon et lui a demandé de laisser aller le peuple. Alors qu'il savait, Moïse fait partie de ceux-là qui ont vécu dans la cour royale de Pharaon. Il sait combien Pharaon est grand. Il sait quelles sortes de conséquences on peut subir si on lui donne une telle proposition. Il sait donner. Il sait donner parce qu'il a reçu la mission de Dieu. Et Moïse, par la puissance de Dieu, il a fait subir le peuple d'Égypte et Pharaon, son chef, le roi, de plaies, de fléaux. Si on peut encore dire les catastrophes, peut-être pour permettre que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte. Ils étaient en servitude et c'était déjà une main-d'œuvre moins chère pour l'Égypte. Alors, les Égyptiens ne pouvaient plus accepter facilement que les membres des enfants d'Israël puissent partir. Et voilà pourquoi, pour sortir, il a fallu une démonstration. Dieu a utilisé Moïse pour la démonstration de sa divinité, de sa toute-puissance. La première chose, quand Dieu dit, Moïse dit à Pharaon, « Tu dois laisser ce peuple partir. » Pharaon refuse. Et Dieu fait une démonstration. Avec Moïse, l'eau change en sang. Toute l'eau de l'Égypte change en sang. Nous sommes à Goma et notre eau, c'est le lac Kivu. Le lac Kivu, imaginez-vous, nous nous réveillons et le lac est déjà en sang. C'est rouge, c'est vraiment du sang. Même toi qui as puisé cette eau-là hier, arrivé à la maison, tu trouves l'eau qui était dans ton bidon est déjà aussi du sang. Il ne pouvait plus boire. Les poissons qui étaient dans le fleuve Nil ne pouvaient plus vivre. Même les grenouilles qui pouvaient y être ne pouvaient plus y être. Et Pharaon a continué à endurcir son cœur, même malgré cela. Et après cela, comme c'était normal, parce que les grenouilles ne devaient plus vivre là où il y a de l'eau qui est devenue du sang, Dieu a ordonné aussi aux grenouilles de sortir. C'était aussi la deuxième plaie, ou le deuxième fléau. Ce qui rend ce fléau encore plus extraordinaire, c'est que ces grenouilles ont aussi choisi d'arriver même jusqu'au lit de Pharaon. Imaginez que tu es en train de dormir, tu te réveilles, tous les lits, ce sont des grenouilles. Est-ce que même vous qui êtes à Goma, vous connaissez les grenouilles? Je ne sais même pas si vous les connaissez. Si vous êtes né à Goma jusqu'à maintenant et vous n'êtes jamais sorti de Goma, vous pouvez ne pas connaître la grenouille ou les crapauds. Troisième fléau qui est revenu, c'était des moustiques. Alors, quand chez vous à la maison, vous n'avez qu'un seul moustique dans la chambre, est-ce que vous parvenez à dormir? Un seul. Maintenant, ce fléau, c'était que Dieu a ordonné à toute la poussière de l'Égypte, tous les pays d'Égypte, de devenir moustiques. La poussière, c'est devenu moustique. C'était grave. Et à un moment donné, le pharaon, quand il voyait que c'est chaud, il décidait de laisser aller le peuple d'Israël. Il pouvait décider de le laisser aller. Et comme le laisser aller était la condition de la cessation du fléau, alors Moïse a aussi ordonné au fléau de ne plus déranger les gens. Et quand Pharaon voyait que c'est déjà fini, il revient encore à sa décision. Il dit, non, vous ne partez pas. Et après, il y aura encore une autre. Les mouches venimeuses sont venus aussi. Les mouches. Nzi. Vous avez tous des toilettes peut-être chez vous. Il y a des toilettes traditionnelles. Il y a aussi des toilettes dans la maison. Mais souvent, les mouches, c'est pour les toilettes qui sont à l'extérieur. Une mouche seulement dans la toilette, tu y arrives, ça te gêne. Même chez toi à la maison, au salon, si une mouche passe, une seule, tu seras gêné. Mais imaginez ces gens, tous les pays, c'était des mouches. Et pas seulement des mouches ordinaires, des mouches venimeuses.
Donc, qui ont des venins comme le serpent. Et après ça, c'était la mort du bétail. Dieu aussi, quand il veut nous donner des leçons, il ne s'inquiète plus de rien. Il peut faire tout ce qu'il veut pourvu qu'il atteigne son objectif. Peu importe ce qu'il va trouver sur son chemin, pourvu qu'il atteigne son objectif. Il ordonne que le bétail meure. Nyama zote zinakufa. Et après, il ordonne les ulcères. Les ulcères, on peut encore dire les firongles ou les abcès. Si tu n'as jamais eu un abcès sur ton corps, tu peux ne pas connaître combien ça fait mal. Ces gens, tout le monde de l'Égypte a reçu des ulcères. À un moment donné, c'était la grêle. La grêle, c'est la pluie de glace. La pluie tombe avec des glaces. Ici à Goma, vous pouvez ne pas comprendre ce que ça fait. Si cette pluie tombe dans ton champ de maïs, de haricots, il faut déjà oublier que tu peux encore avoir même une mesure de haricots. La pluie est tombée. Tout ça, ça venait de Dieu. À part ça, c'était les sauterelles. Les sauterelles pouvaient venir. Et à part ça, c'était les ténèbres. Imaginez maintenant même les ténèbres. Mais on ne peut pas compter les ténèbres. C'est pourquoi ce mot-là est toujours au pluriel, mais c'est au pluriel, féminin pluriel. Bon, moi je prêche André d'enseigner aussi. Je suis un enseignant. Alors, les ténèbres couvrent toute la surface du pays. Personne ne pouvait voir l'autre, celui qui est à ton côté. Tu ne pouvais pas le voir. Tu ne pouvais pas regarder celui qui est à tes côtés. S'il y a de l'obscurité maintenant, s'il y a des ténèbres maintenant, nous ne saurons plus sortir de ces lieux. C'est normal qu'à 18h30, 19h, il y ait des ténèbres. Mais le matin, 7h, 8h, 9h, 10h, il y a toujours des ténèbres. Ce n'était pas facile. Maintenant, ce que je cherche dans tout ça, c'est le dernier fléau. Le dernier fléau, qui est la mort de premier-né. La mort de premier-né. Je vous ai déjà dit ceci. Quand Pharaon voyait la gravité, il pouvait aussi changer d'avis et de laisser aller le peuple. Mais quand il acceptait, la plaie cessait. Mais après, il revenait à sa position. C'est pourquoi le Seigneur a ordonné un fléau qui peut ne pas être aussi à son niveau. Pourquoi? Parce que même les autres fléaux, les magiciens de Pharaon étaient en mesure de les produire. Étaient en mesure de les produire. Mais Dieu dit, en tout cas, maintenant, la dernière phase qui est la plus terrible, qui ne laissera pas le choix aux Égyptiens, c'était la mort de premier-né. Bon, peut-être nous, chez nous, nous pouvons ne pas comprendre l'importance du premier-né. Dans le monde antique, en Égypte, à Canaan, chez les Juifs, le premier-né symbolise la royauté et la succession. Donc, si tu as déjà un premier-né, tu peux être à l'aise parce que ta continuité est déjà assurée. Quand le premier-né va mourir, ça veut dire que tu es fini. Tu es fini, c'est la fin pour toi. Alors, Dieu ordonne que le premier-né soit dévasté. Et le Seigneur va envoyer un ange destructeur pour qu'il puisse frapper tous les premiers-nés des hommes et tous les premiers-nés des animaux qui habitaient dans les pays d'Égypte. Ça, c'est à lire au verset 12 que nous n'avons pas lu. Nous nous sommes arrêtés au verset 11. Le Seigneur ordonne, je vais envoyer un ange destructeur. Donc, le Seigneur que nous adorons, c'est un Seigneur qui peut construire, il peut aussi détruire. Il a ces deux capacités en lui. Il peut décider de te donner la vie ou il peut décider de t'ôter la vie. Parce que même maintenant, tu n'avais pas décidé d'avoir la vie. Quand il va décider un jour, peu importe le moyen par lequel il va le faire, il va t'ôter la vie. C'est pourquoi à tous les moments, il faut toujours rester à ses côtés. Maintenant, les Israélites habitaient aussi en Égypte. Quel serait aussi le sort de ces Israélites? La Bible dit que les Israélites habitaient à Goshen. Ce plaid-là n'arrivait pas à Goshen. Mais maintenant, pour que ces gens-là aussi puissent subsister à cette destruction que le Seigneur va amener, il va leur donner un signe à faire. C'est ce que nous avons lu au chapitre 12 d'Exode. Il a donné une instruction. Voici cette instruction. L'instruction, c'était que chaque famille puisse avoir un agneau de 1 an. Et la famille va égorger l'agneau. Le sang de cet agneau, on va mettre sur les encadrements de la porte d'entrée. Une porte, on met de ce côté et de cet autre côté. On met aussi en haut. Lorsque l'ange du Seigneur va passer, il va reconnaître que cette famille, c'est une famille des Israélites. Il passe, il ne tue personne là-bas. Je vous assure, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, si il y a un Israélite qui n'avait pas obéi à cette instruction, son fils aîné aussi est mort. Ses bétails aussi sont morts. Ou ces bestiaux, si nous pouvons le dire de cette manière-là. Pour dire quoi? Le Seigneur a besoin souvent de l'obéissance pour nous sauver des dangers qui sont devant nous. Le Seigneur a besoin de l'obéissance pour nous sauver de ces dangers. Et chaque famille, lorsque vous avez pris cet agneau, vous devriez le faire. C'est pourquoi nous fêtons la Pâque soit au mois de mars ou au mois d'avril. Parce que selon le calendrier juif, le mois de mars et le mois d'avril constituent le mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif. Si vous avez suivi la lecture, le Seigneur a ordonné que la Pâque soit faite le premier mois de l'année. Et si nous suivons le calendrier juif, le mois de mars et le mois d'avril constituent le premier mois de leur année. C'est pourquoi nous fêtons toujours la Pâque en avril ou en mars. Pour cela, nous suivons la Pâque, qui est la Pâque juive pour ce calendrier-là. Alors, lorsque l'ange est passé, tous les enfants, les premiers-nés, des enfants des Égyptiens, tous les premiers-nés du bétail, les Égyptiens, tous devaient mourir. Et voilà où on trouve encore une autre signification de la Pâque. Lorsque l'ange destructeur va passer dans le pays, il va voir le sang sur les portes des maisons des enfants d'Israël et à cause de ce sang, il va passer dessus. Et on parle de Pâque, Passac. La mort vient de passer. La mort ne va plus nous atteindre. Nous sommes déjà épargnés de la mort. Le sang que les enfants d'Israël ont aspergé sur leur porte a été quelque chose qui a montré que le Seigneur veut nous sauver. Et c'était une préfiguration. C'était une préfiguration de Christ qui va verser son sang pour que nous soyons sauvés. Donc c'est grâce au sang de cet agneau que les Israélites ont été sauvés du jugement des morts. Le jugement des morts qui a frappé
tous les premiers-nés d'Égypte.
Ça veut dire quoi? Dieu a réclamé le sang pour instruire à son peuple de reconnaître l'importance de l'obéissance. Lorsque le Seigneur nous donne quelque chose comme signe, ce n'est pas à dire qu'il lui est difficile de faire quelque chose. Il ne faut pas penser que le Seigneur, lui qui peut être capable de faire tous ces miracles, tous ces prodiges, tous ces fléaux, il était capable aussi d'amener le sommeil chez tous les Israélites, tous les Égyptiens pendant une semaine pour permettre aux Israélites de sortir aisément, sans problème. Il était capable. Il était aussi capable de les prendre. Le soir, ils dorment en Égypte et le matin, ils se retrouvent à Canaan. Le Seigneur était capable de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche même pas ces sangs-là. Le Seigneur cherche l'obéissance dans la vie. Quel est ton niveau d'obéissance pour que le Seigneur accomplisse ce que tu lui pries du jour au lendemain? Ton niveau d'obéissance à sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur te dit pour que tu attendes aussi quelque chose de lui? Pour dire que tous ces événements qui sont cités dans l'Ancien Testament, dans le passé, ce sont des événements qui préparaient le chemin pour que paraisse l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Et il y a eu un autre élément à souligner. La nuit-là, la veille de leur libération totale, ils devaient s'habiller d'une manière particulière, de façon qu'ils soient prêts à partir. Oui, le Seigneur, il est capable de vous sauver, mais il peut aussi voir votre niveau d'implication dans ce salut qu'il vous apporte. Le Seigneur voit aussi ce niveau d'implication dans le salut qu'il vous apporte, dans la réponse qu'il vous apporte. Vous devez, le soir, mouikal, mouki, fa nguo, mou fa nguo na mounajoua, à tout moment, ça peut changer. Donc, ne restez pas nu. Parce que si nous partons et vous êtes nus, vous allez rester. Et nous allons continuer. L'obéissance. Le Seigneur a besoin de l'obéissance. Je m'imagine qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas obéi et il est sorti nu. Bon, on ne dit pas dans la Bible. Et peut-être il a eu la honte de sortir nu et il est resté en Égypte pendant la libération. On devait aussi rôtir l'agneau et non le bouillir. Ukipi ganyama unatia momai, hautaweza kimbia naye. Lakini yenyiko roti, unaweza nyangula tu roti, unakimbia na uko nakula. Roti. Mais on leur avait dit que vous devez finir. Munapashwa imalize. Kama mulichinja kondo, ifo muimalize. Na kama hamuimalize, asubuhi nafika na ingali, munachoma yenye inabaki. Donc rien ne devrait rester. On devait aussi préparer les herbes amères et de pain sans levain. Je vais y revenir, c'est pourquoi je mets beaucoup plus d'accent là et peu. Quand j'arrive dans la conclusion, j'y reviens. La signification de tout cela. Donc, s'habiller d'une manière particulière, de façon qu'on soit prêt à partir. Deuxième chose, rôtir l'agneau et non le bouillir. Troisième chose, préparez les herbes amères que vous allez manger, les herbes amères. Il y a des herbes amères, comment on appelle ces herbes-là? On les vend souvent au marché, ce sont des légumes. Après, même la prédication, je peux me souvenir. Le pain sans levain. Moukatibi la tchatchou. Vous appelez ça les vides. Le pain sans les vins. Ça, c'est l'histoire, le contexte de la Pâque juive. Le contexte historique d'où est venue la Pâque. Dès lors, le Seigneur, là je prends la deuxième question dans l'histoire juive. Le Seigneur a donné l'ordre a donné l'ordonnance que chaque année, chaque début du mois, chaque début de l'année, vous allez prendre la Pâque, le repas de la Pâque. Et pendant que vous prenez le repas de la Pâque, le papa, le père de la famille, son rôle, c'était d'expliquer comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Et ils sont passés par même la mer Rouge, à pied, en sec. Ça, c'est le rôle du papa. Alors, je vais vous poser la question. Vous qui voulez vous marier, les hommes voulaient vous marier. Quand nous venons de reconnaître Dieu dans notre vie, nous avons la responsabilité de faire connaître ce Dieu aussi dans notre famille. Les hommes qui voulaient vous marier, si vous vous mariez, vous avez une famille et vous célébrez la Pâque, quel est le message que vous allez raconter à vos enfants? Et pourquoi vous célébrez la Pâque? Quel est le salut que vous avez reçu? Comment vous pouvez témoigner de ce salut devant vos enfants? Parce que les enfants d'Israël, le père, son rôle, c'était pendant la Pâque, pendant qu'on prenait le repas de la Pâque, le rôle du papa, ce n'était pas de prendre les gros morceaux. Son rôle, c'était d'expliquer comment nous sommes sortis de l'Égypte et le Seigneur nous a été favorable. Par sa main puissante, il nous a délivrés. Et donc, aujourd'hui, même si nous mourons, vous qui allez rester, continuez toujours à reconnaître ce que Dieu avait fait. C'est pourquoi si vous voulez vous marier, ce n'est pas de la blague là-bas. Ce n'est pas de la blague. Le Seigneur veut que vous soyez un beau mari qui va être au même moment mari, père et pasteur de la famille. Vous devez vous rassurer que toute personne peut répondre à la question de tout ce que vous lui avez déjà enseigné. Mais ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui. Et ça ne suffit pas seulement de connaître l'amour, montrer l'amour, vivre l'amour. Non, oui, vivez l'amour, mais l'amour sans Christ, c'est une épée qui vient d'être dans votre maison. L'amour sans Christ. Voilà, maintenant, jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Israël continuent à célébrer cette Pâque-là. La Pâque qui leur permet de comprendre comment ils sont sortis de l'Égypte. Maintenant, Pâques et Jésus-Christ. C'est là que nous pouvons maintenant nous demander pourquoi nous célébrons la Pâque en Jésus-Christ. Nous qui sommes des chrétiens, aujourd'hui, le Nouveau Testament, nous devons d'abord le connaître, enseigne que les fêtes juives, toutes les fêtes que nous avons, que nous faisons dans l'Église, les fêtes chrétiennes, toutes ces fêtes-là n'ont pas commencé avec Jésus-Christ, sauf la commémoration de la naissance de Jésus. Les autres fêtes étaient célébrées même avant Jésus-Christ. Comme je viens de dire, la Pâque, elle était célébrée avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les Juifs qui célèbrent la Pâque, le véritable Juif qui célèbre la Pâque, ne la célèbre pas comme vous. Vous vous souvenez de la mort de Jésus. Lui ne s'inquiète pas de la mort de Jésus. Il célèbre parce qu'il se souvient toujours qu'ils étaient esclaves en Égypte. Alors, toutes ces fêtes-là, les Pentecôtes, c'était aussi des fêtes avant Jésus-Christ. C'était aussi des fêtes qu'on célébrait. On appelle fête de la semaine, fête de la moisson. Les gens venaient et ils célèbrent. Maintenant, l'arrivée de Jésus-Christ vient changer la donne. L'arrivée de Jésus-Christ change l'intelligence et la meilleure manière de raisonner et de comprendre quel est le plan de Dieu dans la vie de nous tous. Donc, de Genèse jusqu'à ce que Jésus naisse, ce sont des préfigurations. C'est toujours les plans du salut de Dieu, les étapes que Dieu a utilisé. Alors, si nous pouvons voir ce que nous avons lu au chapitre 12 et qui nous rappelle l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, la première des choses que nous devons retenir ce jour, aujourd'hui nous sommes Pâques chrétiennes en plus, nous allons retenir sept choses. Je ne vais pas mettre beaucoup de commentaires. Nous devons savoir que la première chose, c'est la grâce salvatrice de Dieu. En fait, Dieu a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, pas parce que le peuple d'Israël le méritait. Le comportement du peuple d'Israël n'était pas convaincant pour qu'il mérite une si grande grâce ou une si grande délivrance, si je peux le dire comme ça. Mais le Seigneur les avait choisis pour qu'il les utilise comme matériel didactique dans l'histoire de son salut. Alors c'est par la grâce qu'ils ont été choisis, et cette même grâce qui a accompagné Dieu dans son amour, qui lui a amené à faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ça veut dire quoi? De même, comme c'est par la grâce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, de même, le salut que nous recevons de Christ nous vient par le moyen de la grâce extraordinaire de Dieu. C'est la grâce. Nous n'avons rien fait. Nous ne méritons rien. Mais c'est la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Le moyen de la foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce qui nous sauve. Ce qui nous fait sortir de l'esclavage du péché vers la liberté en Christ. Deuxième chose, nous avons parlé de l'application du sang sur les encadrements. Il y a l'application du sang de l'agneau qui a été sacrifié et on a appliqué ce sang sur les encadrements de la porte. Cela avait quel but? Je l'ai déjà dit, c'était le but de sauver la vie des premiers-nés israélites. Ce sang nous parle de quoi aujourd'hui aussi avec Jésus? Le sang de Christ qui a été versé sur la croix pour nous sauver de la mort et de la colère que Dieu éprouvait pour le péché. Dieu avait la colère et la même colère qui était en Égypte qui l'a amené à tuer tous les fils premiers-nés. Le péché que nous avions commis dans le jardin d'Éden, Dieu avait cette colère-là. Et la réponse à cette colère, c'était de nous exterminer tous. Nous tuer tous. Mais au lieu de nous tuer tous, par sa grâce, sa miséricorde, il a tué un, son fils unique, qui verse son sang pour la rémission de nos péchés. Si nous recevons Jésus-Christ, tout en sachant la force du sang qu'il a versé, nous sommes épargnés de la mort. Comme les enfants d'Israël ont été épargnés de la mort quand l'ange dévastateur devait passer. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas le sang que nous allons mettre sur nos manteaux, sur nos encadrements. Le sang de Jésus qui a des empreintes dans notre cœur par la foi que nous avons en lui suffit pour que le Seigneur nous dise « Vous avez la vie ». La troisième chose, l'agneau pascal qui devait être sacrifié avait pour but de remplacer le premier-né. Donc, au lieu que ce soit le premier-né qui meurt, c'est maintenant l'agneau-là qui est mort. Ce sacrifice, comme je l'ai déjà dit, annonçait la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la place des pécheurs. C'est pourquoi même Paul, lui, quand il parle à 1 Corinthiens 5, 7, il dit directement que Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est plus l'agneau qui avait été immolé en Égypte, mais notre Pâque, c'est Jésus-Christ, celui qui a accepté de mourir à notre place. Donc, si quelqu'un se permet de mourir lui seul, ça le regarde. Mais le Seigneur nous a déjà donné la vie. Quatrième chose, l'agneau qui devait être offert en sacrifice devait être sans défaut. Hakuna kilema fulani. Cet agneau-là symbolisait ou préfigurait la pureté de Christ. Le Fils de Dieu qui est parfait. C'est Jésus ici. La Bible dit en Hébreu 4, 15, même Jean 8, 46, que Jésus n'a pas connu de péché. Il n'a pas connu de péché. Donc, il a fait une vie sainte. Celui qui n'a pas commis de péché, c'est celui-là qui devait être en mesure de nous enlever de notre état de péché. Parce que son sang était le sang le plus pur. Dieu ne peut pas prendre quelqu'un, une personne comme nous, qui est aussi de la race d'Adam, qui a cet ADN du péché. La rémission des péchés ne serait pas effective. Mais le Seigneur a vu qu'il faut que mon Fils unique descende lui-même pour nous sauver. Parce que son sang ne connaît pas de péché. Et quand ce sang est versé, alors nous avons été sauvés. La cinquième chose, la participation au repas pascal. Lorsque les gens participent à ce repas, ce n'est pas comme aujourd'hui. Ici, nous prenons seulement le pain et le vin. Chez les Juifs, c'est un repas. Une fête. C'est une fête. On cherche la viande, on cherche tout ce que vous mangez les jours de fête. C'est pourquoi si vous lisez les Écritures, quand Jésus avait commencé la Pâque, Jésus était aussi en train de célébrer la Pâque juive. La Bible dit maintenant, si vous lisez Matthieu chapitre 26, le verset 26, je crois, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit les pains et il les rompit, en disant, ceci est mon corps. C'est pendant qu'il mangeait, ce n'est pas pendant qu'il mangeait ce pain-là. Il mangeait la nourriture de la Pâque. Pendant qu'il mangeait, il a pris le pain et il a initié, il a institué la Sainte Cène maintenant que nous prenons. Et il l'a institué à l'occasion de la Pâque juive. Parce que lui-même sera bientôt cet agneau-là qui sera immolé, qui sera mis à mort pour la rémission définitive de nos péchés. Alors, la participation au repas montrait que la communauté israélite s'identifiait à la mort de l'agneau. Lorsque vous participez au repas, vous vous identifiez à la mort. En vous, vous vous dites, c'est moi qui devais mourir. Vous vous identifiez là-bas et vous participez à ce repas-là. Notre participation au repas du Seigneur, lorsque nous venons de participer ici, montre que nous aussi, nous nous identifions à Christ dans sa mort qui nous délivre de la mort spirituelle. Pour dire que, comme dans le cas de la Pâque, seul le sacrifice initial, c'est-à-dire sa mort sur la croix, a eu une pleine efficacité. Ça veut dire quoi? Nous avons parlé des 10 plaies, des fléaux en Égypte. Ce fléau préfigurait aussi autant d'agneaux que quelqu'un pouvait donner pour que Dieu le pardonne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pour être pardonné, il fallait venir avec les agneaux. Il fallait venir avec un agneau pour que cet agneau soit mis à mort et le Seigneur te pardonne. Parce que c'est toi qui devais mourir à cause du péché que tu as commis. Mais le Seigneur dit, il ne faut pas tuer quelqu'un, il faut plutôt tuer un agneau à sa place. Maintenant, ces agneaux-là, leur sang n'avait pas toute la force de balayer tous les péchés que nous avions. Mais lorsque c'est Christ maintenant qui meurt, lorsque c'est Christ qui verse son sang, c'est très efficace parce que après lui, il n'y aura plus d'autre sang qui peut être en mesure de nous donner la vie. Donc, vouloir ou pas, si nous voulons la vie, nous devons croire en ce sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. Aujourd'hui, nous ne faisons que commémorer. Jésus est mort, il est ressuscité, ça va faire bientôt 2000 ans.
Ce n'est pas qu'il est mort le vendredi et qu'il est ressuscité aujourd'hui.
Nous, nous célébrons, nous commémorons ce qui a déjà été fait parce que le sang qu'il a versé sur la croix suffisait en une seule journée pour que notre péché soit pardonné. La sixième chose, l'aspersion du sang sur l'encadrement a été geste de foi et d'obéissance.
Je reviens encore à ça. Je l'avais déjà dit.
L'aspersion du sang. Ça veut dire quoi? L'expression de la foi a apporté la rédemption par le sang, le salut par le sang. L'obéissance. Quand vous avez la foi, vous placez votre foi en Christ, vous obéissez seulement. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le salut par le sang de Christ ne s'obtient que par l'obéissance à sa parole. Si tu utilises ton intelligence, tu utilises ta logique mathématique, ta logique philosophique, tu peux ne pas obtenir le pardon des péchés. Mais lorsque tu te remets par la foi, tu seras épargné de la mort physique et même spirituelle. Savez-vous qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont été désobéissants? Vous mourrez physiquement parce que vous avez été désobéissants. Mais le Seigneur, lorsque nous l'obéissons, la Bible dit que nous pouvons même obéir à nos parents. Nous allons vivre longtemps. Mais le Seigneur, lui, est capable de nous donner la vie physique, mais il a aussi la capacité de nous donner la vie spirituelle. C'est pourquoi il avait dit Jésus que si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vas vivre. Septième chose, l'agneau pascal devait être consommé avec le pain sans levain. Nous avons parlé de ça. Dans la Bible, quand on dit que ça doit être célébré sans levain, dans la Bible, le levain symbolise d'ordinaire le péché. Le levain symbolise la corruption. Ça veut dire quoi? Vous voyez par exemple quand on fabrique le pain. Peut-être que parmi nous, bien c'est lui qui fabrique le pain. Le levain corrompt. C'est un signe d'orgueil. Vous voyez par exemple quand on vient de mettre le levain dans la farine qui a déjà été mélangée. C'est cette levure-là qui permet au pain de gonfler, de prendre le volume. Ça symbolise l'orgueil dans la Bible. C'est pourquoi on dit, quelqu'un qui veut approcher la table du Seigneur, il faut qu'il soit sans péché, il faut qu'il soit sans corruption, il faut qu'il soit sans orgueil. Le Seigneur, quand il ordonne quelque chose, ce n'est pas pour rien. Il dit, vous prendrez le pain sans levain pendant ce moment-là. Ça veut dire, quand vous participez à cette table du Seigneur, vous devez vous rassurer que vous êtes délivré du monde et du péché. Le peuple racheté de Dieu, nous sommes appelés à nous séparer du monde et nous consacrer à Dieu seul. Avant de participer à la table du Seigneur, rassurons-nous si nous n'avons pas de levain en nous. Est-ce que nous n'avons pas quelque chose qui peut nous amener à ce que le Seigneur n'accepte pas notre présence devant lui? Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir, je voudrais vous dire que nous devons nous joindre par la foi aux paroles de Jésus sur la croix. Quand nous avons lu Jean, le chapitre 19, le verset 30, la Bible a dit, on lui a donné le vinaigre parce qu'il avait soif. Quelqu'un qui a soif, on ne peut pas lui donner du vinaigre. Le vinaigre, c'est très amer. Très amer, et ça symbolise ces herbes amères dont je parlais. Parce qu'on les a dit, si vous prenez la Pâque, il faut aussi des herbes amères. C'est pour symboliser la souffrance même si vous êtes libéré, mais vous vous souviendrez que vous avez souffert. Vous avez souffert. Alors, le Seigneur aussi, sur la croix, on lui donne le vinaigre et il boit. Le vinaigre, c'est très amer. D'ailleurs, tu ne peux même pas le boire. Tu ne peux pas dire maintenant, je bois et tu bois le vinaigre. Mais le Seigneur, on lui a donné. Ça symbolise la fin des souffrances. Même s'il souffre, ça veut dire quoi? La souffrance de Jésus avant la croix et sur la croix symbolise la fin de la souffrance. Donc, Jésus va mourir et sa mort symbolise la vie. Bon, logiquement, on peut ne pas comprendre. La mort qui donne la vie, ça c'est Jésus. Et il dit, tout est accompli. Tout ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament, maintenant tout est accompli en Jésus-Christ. Ça veut dire, la mort de Jésus met un terme à ses souffrances pour que le salut trouve place. En buvant le vinaigre qui symbolise ici l'amertume et les souffrances, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a porté par sa mort nos souffrances, Jésus a porté par sa mort nos infirmités, Jésus a porté par sa mort nos douleurs, Jésus a porté par sa mort nos maladies, Jésus a porté par sa mort nos manquements. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, tout est accompli. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, marchons avec lui par la foi, en sachant que celui qui tient notre vie entre ses mains, il a déjà tout accompli. Les souffrances que vous pouvez avoir, le Seigneur les a déjà accomplies. Tout ce que vous pouvez avoir comme maladie, ce que vous pouvez avoir comme, je ne sais pas, chômage, ce que vous pouvez avoir comme, sachez que vous êtes dedans, mais le Seigneur, il est passé par là et il sait par quel chemin il va vous en sortir. Parce que ce Seigneur-là, il a tout et il dirige tout l'univers. Rien ne peut l'échapper. Je vais vous demander de vous mettre debout pour la prière.
Seigneur, je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi, et ta croix qui m'a fait toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu peux comprendre quelque chose par ce que nous venons de dire à ce moment ici. Peut-être que tu célébrais la Pâque, tu ne savais pas d'où venait la Pâque et que peut être la signification de ce que nous faisons aujourd'hui en Jésus-Christ. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur, qui est l'enseignant par excellence, t'amène à comprendre que le plan du salut de Dieu date depuis que Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden. Notre vie, c'est une vie du plan du salut de Dieu. Oui, nous allons loin de sa volonté quelquefois, comme Adam n'avait pas obéi dans le jardin d'Éden. Et plusieurs personnes qui n'obéissent pas, mais qui finissent par perdre la vie à cause de la désobéissance. Oui, mon frère et ma sœur, fais l'introspection de ton cœur. À quel niveau tu es obéissant pour que tu sois épargné de la mort? À quel niveau tu es obéissante pour que tu sois épargné de la mort? Pour que l'ange de la destruction passe au-dessus de toi et te laisse aller. Te laisse aller dans la liberté. À quel niveau tu marches avec Dieu? Est-ce que réellement tu as reçu Jésus-Christ afin qu'il te dirige. Aujourd'hui, nous sommes Pâques, nous célébrons la résurrection de Christ. L'important, c'est que le Christ soit ressuscité dans ton cœur. C'est que le Christ est aussi ressuscité dans ton cœur. Et est la foi que le Seigneur, qui est ressuscité, alors qu'il venait de mourir, il est capable aussi de ressusciter tous ceux qui étaient déjà morts dans ta vie. Le Seigneur est capable de ressusciter tous ceux qui étaient déjà morts dans ta vie, ceux qui portaient déjà le marque de la corruption, ceux qui portaient déjà le marque de la pourriture. Le Seigneur est capable encore de les restaurer. C'est pourquoi je te demande de te soumettre entre les mains de Dieu, afin qu'il te restaure encore une fois. C'est très important de vivre ce que vous connaissez. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons entre tes saintes mains. C'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous enseignes. Quelquefois, nous nous mettons dans des choses et nous ne connaissons pas la signification. Nous venons d'essayer, Seigneur, d'expliquer d'où est venue la Pâque. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Enseigne mon frère, enseigne ma sœur, afin que nous continuions à te connaître du jour au lendemain. Et dans ton plan du salut, tu as déjà tout accompli. Accomplis, Seigneur, la vision de chacun de nous ici. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qui a une vision, qui a des objectifs, qui pense à beaucoup de choses dans sa vie. Je prie, Seigneur, que ça s'accomplisse. Comme tu as dit sur la croix, tout est accompli. Quand tu es mort avec nos infirmités. Tu es mort avec nos maladies. Tu es mort avec nos faiblesses. Tu es mort avec nos chômages. Tu es mort avec tout. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons entre tes saintes mains. Fais à ce que nous soyons aussi parmi ceux-là qui vont bénéficier de ta grâce. Ceux-là qui la bénéficient et qui la vivent. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu nous bénisse.